écrivez-nous au Courrier Mondial, Radio-Canada International, case postale 6000, Montréal, Québec, Canada, H3C3A8.
J'ai remarqué le rythme de votre émission qui est un beau rythme où on ne s'ennuie pas, pour ainsi dire. Tout se déroule très bien. Et on est fiers, à part ça, de parler de vous aux autres. C'est qu'avec les Français, dont on parle souvent, avec les francophones, c'est l'excellence de votre français, M. Parent. Vous parlez de façon impeccable. Ça impressionne beaucoup les francophones en général.
Stéphane Parent.
Alors, soyez le ou la bienvenue à votre courrier mondial du 25 septembre, émission rediffusée tous les mardis sur RCI. Aujourd'hui, technicien, Alexandre Bélanger. Au programme, après Katrina, Orphelia, puis Rita, comment ces ouragans à répétition affectent-ils nos auditeurs? Aussi, via les ondes courtes, il sera question de ces Canadiens qui volent à la rescousse des marins en difficulté sur nos océans. Et pourquoi donne-t-on des noms aux ouragans?
Aller dans le golfe, mais c'était jamais comme ça.
C'est plus pire que je pensais. Pas mal de débris un peu tout partout, les plages pas mal maganées, pas mal de maisons maganées.
Les maisons maganées, donc en bon français, en français international, si vous préférez, des maisons brisées, endommagées. Il s'agit donc d'un mot québécois prononcé par un Québécois, un de ces 1000 militaires canadiens qui se trouvent présentement dans le golfe du Mexique pour aider au nettoyage après le passage de Katrina. Il faut dire aussi que d'autres pays font leur part, d'autres pays ont tenté de faire leur part, comme cette offre de 1500 médecins en provenance de Cuba. D'autres pays ont été plus chanceux, le Mexique par exemple. Plusieurs camions chargés de matériel, c'est la première fois que l'armée mexicaine mettait les pieds en sol américain depuis 150 ans. D'ailleurs, j'ai cette lettre envoyée par M. Francesco Durante à Mexico. Comme vous le savez, M. Parent, mon pays a envoyé des militaires ainsi que plusieurs camions pour aider les victimes de la Nouvelle-Orléans. Je suis très triste pour ces pauvres habitants du Golfe et nous sommes bien solidaires au Mexique, car ça pourrait nous arriver aussi. Je suis content du Canada et de votre travail en Nouvelle-Orléans. Mais absence de réaction sur cette tragédie humaine, c'est ce qu'on notait au Courrier mondial il y a 2 semaines. Je vous ai demandé pourquoi. Les réactions sur Internet dans un instant.
Écrivez-nous au Courrier mondial, Radio-Canada International, case postale 6000, Montréal, Québec, Canada, H3C3A8.
D'abord, cette lettre qui nous parvient de Boïcon au Bénin, signée Saliou Mama. Bonsoir, cher Stéphane. Dimanche dernier, tu t'étonnais du silence des auditeurs sur le drame qui a frappé la Louisiane. En ce qui me concerne, ce n'est pas du désintéressement, mais plutôt du mépris à l'égard du gouvernement fédéral des USA. Je regrette que ce soit la classe moyenne qui soit durement frappée. Le président Bush, tout comme les Américains dans l'ensemble, aime chanter ce slogan. Nous sommes le monde, nous sommes les meilleurs. Mais ils viennent de voir leurs limites. Leur super bombardier B-52, qui ne servent qu'à tuer des innocents, n'ont servi à rien cette fois. Il n'y avait pas de Noé pour sauver une partie du peuple. Je lance cet appel aux Américains, cessez d'être arrogants, car vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Si Dieu le veut, il effacera toute l'Amérique en un clin d'œil. Et puis, une autre réflexion, celle-là qui nous vient de France. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi suite à cette tragédie de Katrina, alors que dans le cas du tsunami, en décembre dernier, vous avez été très nombreux? Jacques Biel écrit à Châlons-en-Champagne, « Quand on a eu connaissance de cette tornade, on n'écrit pas à Radio-Canada International, mais aux amis que nous avons dans la région, aux USA, et qui ont de la famille dans le Sud. Quand on est informé qu'ils sont sains et saufs, alors on adresse avec sa compassion et ses vœux de réconfort un petit sermon. Vous, les meilleurs chauffagistes de la planète, ne pensez-vous pas que de tels événements devraient vous amener à baisser votre chauffage qui sème le vent ?» Quelqu'un, d'ailleurs, a bien dit « qui sème le vent récolte la tempête ». Merci pour ces quelques réactions. Et dans quelques instants, on va se promener d'hier à aujourd'hui, au large de l'Amérique, dans les Caraïbes, où 2 Canadiens prennent place à bord d'un grand voilier alors qu'ils sont à la retraite.
C'est RC, oui, allô.
Décroche!
C'est RC Oui Allô et nous sommes maintenant en communication avec Diane Saint-Hilaire, 56 ans, et Claude Bérubé, 60 ans. Ils sont originaires du Québec et ils voyagent à bord de leur voilier Picasso dans la région de la mer des Caraïbes. Ils changent de port et de pays relativement souvent tout en restant en contact avec leur mère patrie grâce à l'écoute régulière de Radio-Canada International. Et nous les joignons maintenant dans la baie de Carénage à Trinidad. Alors Claude, bonjour.
Bonjour Stéphane, ça me fait plaisir de vous entendre.
Alors une vie de millionnaire mais avec les moyens du bord.
C'est à peu près vrai ce que vous dites. Il y a des îles où on va même pas au restaurant, on n'a pas les moyens de se le payer. Les besoins sont complètement changés. On ne va pas au cinéma, on n'a pas les mêmes frais de dépenses que quelqu'un sur Terre a.
Votre épouse, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça?
J'aimerais que vous lui posiez la question vous-même.
Bien, certainement.
Un instant, je vous la passe.
Oui, bonjour, M. Varin.
Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Avez-vous besoin de courage pour accompagner votre mari comme ça?
Le seul courage des fois que j'ai besoin, c'est si on se fait prendre par un peu plus de vent que prévu, ben là... Comme c'était pas prévu, ça rend peut-être un peu plus nerveuse, mais finalement, on essaie de jamais sortir ce que j'appelle, moi, par gros temps. Il faut que ce soit une navigation plaisante.
Et 3 ans et demi plus tard, Diane et Claude Bérubé ont quitté leur voilier momentanément pour rendre visite à leurs amis au Canada, à leur famille et aussi au Courrier mondial.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Pour nous, le prétexte, c'est de parler d'abord de ces ouragans à répétition qui semblent traverser la région que vous connaissez bien comme navigateur. Ça vous inquiète ce que vous...
C'est toujours inquiétant. La seule chose qu'on espère, c'est de jamais être dans ce qu'on appelle le territoire des ouragans, parce qu'il y a vraiment un territoire. Et c'est pour ça que notre bateau, en ce moment, est au Guatemala, qui est pas un pays absent d'ouragans, parce qu'il y a eu le Mitch qui l'a déjà détruit, mais là, dans la rivière où nous sommes, il n'y a jamais eu un ouragan. Il y a à peu près 300-400 bateaux qui sont là. Le temps que les ouragans passent, parce qu'on ne veut pas sortir de là.
Lorsqu'on vous avait parlé à tous les deux, il y a 3 ans et demi, je me souviens très bien, Diane, vous disiez, là, après l'entrevue, on va se quitter, il faut déjà préparer notre départ, puisqu'il y a une tempête qui s'annonce, il faut quitter là où on se trouve. Vous étiez un petit peu nerveuse à ce moment-là.
Tout à fait, parce que Trinidad n'étant pas une trajectoire à ouragans, puis des fois, il y a des tempêtes qui viennent et qui ne prennent pas la ligne nord-ouest comme d'habitude. Et celle-là, justement, était très près, puis ça nous agace, là.
Comment est-ce que vous le savez qu'il y a quelque chose de méchant qui s'en vient dans votre direction?
Écoutez, on est des maniaques de la météo, des obsédés de la météo. Et tous les matins, on va passer sur on va écouter les ondes courtes, hein, et puis sur les ondes courtes, on peut passer 2 heures le matin à être en relation avec d'autres bateaux sur les ondes courtes. D'autres bateaux, il y a des spécialistes sur les bateaux qui donnent la météo aussi. Et puis, grâce aux ondes courtes, sur mon laptop, je peux aussi télécharger les cartes météo. Alors, j'ai pour 72 heures de cartes météo que j'ai devant moi, que je regarde et que j'écoute après ça les bulletins qui se donnent par les autres gens de bateau. Je prends tout ce qui se donne là, et puis parce que ça se contredit. Hein, un bulletin à l'autre se contredit, les gens interprètent la météo différemment. Alors moi, je dois à ce moment-là écouter un peu tout le monde, puis regarder la carte, puis voir d'après moi. Mais la météo, ça s'écoute jamais au jour le jour. Si je dois partir dans une semaine, déjà tous les jours, je regarde la tendance de la météo, par exemple. C'est vraiment une obsession quotidienne.
Oui. Diane, vous le vivez comme ça ou vous laissez à votre mari le soin de se préoccuper de la météo?
La décision, ça c'est évident. Si il me sent nerveuse pour un départ, on part pas. Mm-hmm. Quitte à remettre le tout, on a le temps. On est supposé avoir du plaisir, alors il faut partir tous les deux, là, bien calmes, en possession de nos moyens et préparer, je veux dire, c'est pas seulement la météo. Quand la décision est prise, bon, ben, c'est tout ce qui va avec, hein, la nourriture, le diesel et tout ça, là, on en fait un point commun.
Là, lorsqu'on voit les images, évidemment, venant de la Nouvelle-Orléans, on est très préoccupé par ce qu'on voit, les maisons détruites, complètement soufflées là, par les vents. Mais évidemment, il y a des gens, il y a une population qui habite sur les mers.
Un de nos amis qui, pour la première fois, qui était avec nous au Guatemala et qui est parti et qui est venu mener son bateau dans le lac Pontchartrain parce qu'il y avait des amis qui étaient là, puis qu'il y avait un quai, puis on s'occupait de son bateau pendant qu'eux retournaient à Vancouver, des gens de Vancouver. Eh bien, on a pensé à eux beaucoup parce que l'ouragan a passé pendant que leur bateau est dans le Pontchartrain. J'ignore complètement l'heure actuelle. On leur a écrit. Ils nous ont répondu qu'eux-mêmes ne savent rien de leur bateau. Ils doivent qu'attendre. Ils n'ont pas aucun contact. Alors, c'était pas une belle décision que d'aller en Louisiane cette année.
Quand est-ce que vous retournez?
11 octobre.
Avec impatience?
Avec relativement d'impatience, oui. Oui et non, parce que, disons, le Guatemala, on ne peut pas quitter le Guatemala tant que la saison des ouragans n'est pas terminée, et ce qui est le 30 novembre. En décembre, c'est ce qu'ils appellent les vents de Noël, les Christmas winds, c'est des forts vents. Beaucoup de vent et souvent contre nous. Alors, donc, on quittera pas, on sera au Guatemala pour quelques mois. Alors, comme le bateau bouge pas, ce sera nous qui allons bouger. Je pense qu'on va visiter des coins du Guatemala qu'on n'a pas vus. Et il y a, bien évidemment, l'entretien de notre bong à l'eau.
Bon.
Ça prend de la peinture, du vernis, ajustement de moteur, changement d'huile.
C'est pire
ça,
qu'une
là.
Maison, quoi. C'est pire qu'une maison.
C'est ben, semblable. Disons que moi qui n'étais pas un type habitué au bricolage, là, il a fallu que j'apprenne à manœuvrer un tournevis, hein, puis à apprendre ce que c'était que l'électricité, puis de la plomberie. Alors, j'ai dû apprendre bien des choses. L'autonomie, disons, c'est ce qu'on apprend surtout. Mmh. Ici, on fait appel au plombier, on appelle l'électricien, mais sur un bateau, on l'a pas l'électricien. T'sais.
On va vous souhaiter un bon retour, un bon voyage, et puis la santé pour encore plusieurs années. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à cette émission. Diane et Claude Bérubé, à bientôt.
Ça a été un plaisir de vous rencontrer, Stéphane.
Un plaisir, ça a été très, très agréable.
Et si via les ondes courtes, vous nous entendez en ce moment, vous aussi, vous êtes matelot dans la région, vous êtes francophone, on aimerait bien avoir de vos nouvelles. On vous donne l'adresse en fin de programme. Et nous allons tous maintenant, ensemble, grâce à votre imagination, prendre la route des vents. Visitez du haut des airs tous ces auditeurs à bord de leur voilier dans les Caraïbes. Laissez-vous emporter par la musique. Fermez les yeux.
Voici les prévisions météorologiques pour le sud et le centre du Québec. Fléchissement des températures par rapport à hier, maximum 22 à 24. Passage d'un système frontal, le temps est généralement nuageux, avec averses dispersées et risques d'orages.
Alors en ce moment, 25 septembre, température maximale moyenne ici dans l'est du Québec, 19 degrés Celsius, presque 20, et la normale au minimum 9 Celsius. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on donne des noms féminins aux tempêtes et cyclones? Qui attribue ces noms et comment? Merci, nous dit Abdou Saliou de Parakou au Bénin. D'abord, on n'accorde pas que des noms féminins aux tempêtes et cyclones, on leur accorde également des noms masculins, mais la pratique est quand même relativement nouvelle. Et à ce sujet, je vous expédie ce mini cananagramme. Alors, Abdou Saliou, voici. Le premier usage d'un nom pour un cyclone a été fait d'un prévisionniste australien au début du 20e siècle. Il lui a donné le nom d'un personnage politique qu'il n'aimait pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des prénoms féminins ont été donnés aux cyclones par des météorologues de l'armée de l'air américaine qui faisaient de la prévision cyclonique sur le sud du Pacifique. Ils utilisaient des noms de leurs petites amies ou de leurs femmes. Ce sont les premiers à utiliser des noms féminins. Par la suite, en 1953, les États-Unis, les services météorologiques américains, ont commencé à employer fréquemment, sur une base régulière, des prénoms féminins pour nommer des tempêtes. C'est en 1979 qu'on a officialisé pas mal la chose, que des noms masculins et féminins ont été inclus en alternance. Aujourd'hui, on donne des noms à des tempêtes. Pourquoi? Pour faciliter la communication entre les services météorologiques et le public pour les prévisions, la surveillance et les avertissements. En donnant un nom aux ouragans, on risque moins de confondre les tempêtes qui se suivent, comme c'est le cas en ce moment, l'une après l'autre. Le sort des marins dans les Caraïbes préoccupe même certains Canadiens et Québécois. J'en ai un ici autour de la table. Il représente l'Union métropolitaine des sans-filistes de Montréal. Il s'agit de Jean-Guy Renaud.
Bonsoir Stéphane.
Alors, deux petites émissions qui sont diffusées à partir du Québec, destinées aux auditeurs qui parlent le français dans les Caraïbes.
Aussi bien sur l'Atlantique que sur le Pacifique. Ça sert à leur sécurité ainsi que de les mettre en contact avec leur famille qui, eux, n'ont pas la chance de les accompagner.
Alors, autant au niveau de l'Atlantique et du Pacifique, comment est-ce qu'on arrive à rayonner aussi large?
Sur les fréquences, entre autres, du 20 mètres, qui sont à 14 mégacycles en montant, lorsque les conditions de propagation s'y prêtent, normalement, il n'y a aucun problème. Les gens de Montréal ici peuvent parler sur un bateau comme on s'entend présentement tous les deux.
Deux émissions qui ont des noms comparables.
Oui, le réseau du Capitaine, c'est un réseau qui est en onde depuis une quinzaine d'années, constitué de 3 ou 4 radioamateurs. Le deuxième réseau s'appelle le réseau des petits bateaux, qui est animé par 2 personnes, une qui est ici et l'autre est en France. Et
ils nous disent quoi exactement à travers ces émissions?
Bien, pour commencer, il y a les échanges personnels, les échanges familiaux, les échanges techniques, échanges météo, les nouvelles du pays, les nouvelles des gens à bord aussi, parce que il peut arriver que dans certains cas, il y en a qui sont malades, qui ont le mal de mer ou autre. Et puis, on peut les mettre en contact avec des médecins. Il y a une foule de choses que ces gens-là, ici, localement, peuvent faire pour les navigateurs en haute mer.
À ce moment-ci de l'année, on en est rendu à la 18e tempête tropicale ouragan. L'an dernier, à pareille date, c'était seulement 11. Ça doit être des équipes très occupées, ces temps-ci.
Ce sont des équipes qui fonctionnent 7 jours par semaine, à tous les matins, à 7 heures. Les deux réseaux commencent. Et lorsque les conditions le permettent, le réseau du Capitaine est à 14 118 et le réseau des petits bateaux est à 14 150, 155, dépendant si les fréquences sont libres ou non.
Les émissions d'une durée de combien de minutes, ça?
Ça peut durer 2 heures, 3 heures, de 7 heures à 10 heures régulièrement.
Selon les besoins?
Selon les besoins. La grande majorité de nos Canadiens qui font de la navigation et qui sont équipés de radio à ondes courtes, et surtout ceux qui ont des licences de radio amateur, peuvent participer à ce réseau-là.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Jean-Guy Renaud.
Bienvenue, Monsieur Stéphane.
Il n'est pas venu tout seul, il est venu aussi avec Pierre Lebeau, qui est aussi de l'Union métropolitaine des sans-filistes, pour rappeler aux auditeurs quelque chose d'important.
Oui, disons que dans toutes les émissions qu'on effectue avec vous, on a un site web et puis on a une adresse auquel vous pourrez envoyer les questions que vous vous demandez, ainsi de suite. www.veums.ca/capsule-RCI.
Merci beaucoup, puis on va afficher cette adresse sur notre site Internet cette semaine. À la prochaine.
Merci.
Et elle se trouvait il y a encore quelques semaines dans la région d'Haïti. Il s'agit d'une sœur religieuse qui est déjà passée à notre antenne dans le cadre de notre chronique RC Oui Allô, où on vous appelle au téléphone. Et bien, il s'agit de sœur Regina Potvin qui nous envoie une lettre cette semaine de Baie-Saint-Paul, au Québec, au Canada. « Je suis présentement en vacances pour 3 mois. Je ne pourrai donc pas écouter le courrier mondial, malheureusement. » peut-être qu'elle ne sait pas, mais elle peut nous entendre sur Internet. J'ai reçu la veille de mon départ d'Haïti une superbe calculatrice de Radio-Canada International et je viens vous en remercier. Je vois que vous vous occupez toujours de vos auditeurs. Oui, et on s'en occupe beaucoup. On se préoccupe de savoir si vous passez par Montréal, sœur Regina. J'espère que vous nous écoutez. Venez faire un tour ici à Radio-Canada International. Ce serait agréable, enfin, de mettre un visage, comme on l'a fait en début d'émission, sur des auditeurs qui sont avec nous depuis beaucoup d'années. Au sujet de Montréal, j'ai une question mondiale à vous poser, nous dit Youssoufi Mega à Cap Ténékou, République du Mali. C'est un enseignant. Tokyo, nous dit-on, est la ville la plus chère au monde. Montréal se place en quelle position? Eh bien, Youssoufi, en se basant sur des critères tels que l'immobilier, le coût de la vie, le degré d'accessibilité aux services publics et, c'est très important, le revenu moyen par habitant, un classement a été établi parmi les 100 plus grandes villes au monde et la dernière enquête en date remonte à mardi de la semaine dernière, réalisée par la société américaine Mercer Human Resources Consulting. Et cette année, vous avez raison, Hong Kong est détrônée par Tokyo comme ville la plus chère au monde. Mais où se trouve donc Montréal? Nous vous expédions ce Canadagramme.
Youssoufi, vous aviez donc raison. Tous critères confondus, c'est Tokyo qui remporte la palme des villes les plus chères au monde. L'indice moyen concernant le coût de la vie est de 165,5, sur la base de Paris dont l'indice est de 100. Voici dans l'ordre les autres villes où le coût de la vie est le plus élevé. Deuxième, Moscou. Troisième, Osaka. Quatrième, Hong Kong. Cinquième, Pékin. Sixième, Genève. Septième, Londres. 8e, Séoul, 9e, Zurich et enfin 10e, New York. Montréal, quant à elle, arrive en 120e position sur ce palmarès, derrière les autres villes canadiennes de Toronto, 104e, Vancouver, 110e, Calgary, 116e. Seule la ville d'Ottawa, notre capitale nationale, est moins chère selon ce palmarès, puisqu'elle arrive en 127e place. Pourquoi les villes canadiennes sont-elles si peu chères dans leur ensemble? Le tout tient à l'abondance des ressources, bois, pétrole et terrain, ce qui permet de construire des maisons à faible coût. Cela tient aussi à l'importance de notre secteur agricole, qui fournit tout, ou presque, mis à part les noix, le café et certains fruits. Notre secteur des pêches, très étendu, procure lui aussi une alimentation diversifiée à faible coût le long des côtes.
Enfin, dans la série de facteurs qui font que nos villes sont parmi les moins chères au monde, il y a l'accès à une main-d'œuvre qualifiée abondante. Ainsi, nous dit-on qu'un filet social étendu qui subventionne le mieux-être, la santé, l'éducation et l'habitation pour des millions de familles à des degrés divers. Mais ce faible coût de la vie a un prix, comme en France, une large part des revenus des Canadiens versée directement au fisc. Benoît Sunéveux, bonjour.
Bonjour.
Cette semaine, on va avoir le plaisir ensemble de commencer une longue discussion qui va s'étaler sur un certain nombre de semaines sur l'arrivée bientôt au Canada de la radio satellite.
Oui, les auditeurs canadiens auront bientôt le choix entre trois systèmes différents. Chaque système offrira des dizaines de canaux, dont la plupart seront sans annonce publicitaire.
Ça veut dire que la radio satellite, ce sera une radio payante à laquelle il faut donc s'abonner?
Oui, les frais d'abonnement seront entre 9 $ et 13 $ par mois, selon le système.
Alors ça, c'est environ entre 5 et 7 euros par mois. C'est quand même assez abordable. Et il existe déjà deux systèmes de radio satellite aux États-Unis, il faut le rappeler quand même.
C'est vrai, ce sont Sirius Satellite Radio et XM Satellite Radio. Ils sont disponibles sur le marché américain depuis plusieurs années et ont chacun un nombre croissant d'abonnés.
Est-ce que Sirius et XM ressemblent à WorldSpace, vous savez, le système de radio satellite que connaissent bien nos auditeurs en Europe et en Afrique?
En grande partie, oui. Les deux transmettent directement des satellites aux postes de radio. Les postes n'utilisent pas d'antenne parabolique pour capter les signaux. C'est tout comme WorldSpace. Dans les deux cas, les abonnés canadiens auront accès à des dizaines de canaux américains de Sirius ou de XM, auxquels seront ajoutés quelques canaux canadiens.
Il y aura un troisième système de radio satellite dont nous n'avons pas encore parlé.
En effet, c'est Chum Subscription Radio Canada. C'est un partenariat entre deux grandes compagnies de radio commerciales, Chum Limited de Toronto et Astral Media de Montréal. La grande différence entre le système Chum et les deux autres systèmes, c'est que le système Chum ne diffusera pas directement des satellites. On va utiliser des satellites pour alimenter des réémetteurs terrestres dans les grands centres de population. Les abonnés écouteront donc des émissions transmises localement en numérique en format DAB.
Alors, nous allons poursuivre cette conversation sur la radio satellite la semaine prochaine au Canada. En parlant de quoi exactement? De la programmation qu'on va retrouver à l'antenne de ces radios?
Oui, on va parler de la programmation et aussi des plaintes sur le contenu canadien qui, c'est pas très élevé.
Comparé au contenu américain sur ces
postes. Bien sûr.
Merci beaucoup, Bill, puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bah écoutez, votre émission se termine, il est presque 22 heures. Hein.
J'entends.
Vous écoutez l'indicatif de Radio-Canada.
Ah oui.
Radio-Canada International.
Alors voilà, c'est tout pour le courrier mondial du 25 septembre, émission qui est rediffusée le mardi à l'antenne de RCI. Aujourd'hui, notre technicien, Alexandre Bélanger, adjoint à la réalisation, Boguslav Podorski. La semaine prochaine, eh bien, j'aurai l'occasion de partager avec vous des réactions d'auditeurs par rapport à nos récentes questions mondiales. Qui est le meilleur chef d'État dans le monde? Selon vous, la religion est-ce une bonne ou une mauvaise affaire? Et aussi, comment se porte la langue chez vous? Ce sont toutes des questions mondiales suggérées par nos auditeurs. Vous-même, vous pouvez suggérer une autre question provocante. Si votre suggestion est retenue, vous remportez un prix de participation important de Radio-Canada International. Aussi, je veux vous dire que j'ai reçu au moins une demi-douzaine de photographies cette semaine, sauf que vous ne remplissez pas les conditions du concours. Pour afficher votre photographie sur notre site Internet dans une section spéciale, il faut absolument qu'on y trouve sur cette photo votre ordinateur ou encore votre poste de réception. Onde courte, voilà, je vais vous le dire, toutes les autres photographies qu'on a reçues, on ne peut pas les afficher. J'attends donc que vous remplissiez les conditions du concours. Ici Stéphane Parent, à la semaine prochaine.
Nous aimerions recevoir de vos nouvelles par la poste traditionnelle. Écrivez-nous au Courrier mondial, Radio-Canada International, case postale 6000, Montréal, Québec, Canada, H3C 3A8. H3C 3A8.